Un vent de poésie souffle ce soir sur Radion. Bonsoir à toutes et à tous. C'est le printemps des poètes, 14e édition, qui cette année est consacrée à l'enfance. À cette occasion, nous accueillons ce soir devant le micro de Wagon Livre une figure haute en couleur. Lui-même est poète, romancier. Il est né dans le Chablisien en 1929. Bonsoir Serge Moreau.
Bonsoir.
Alors, merci à vous, Serge, d'être devant ce micro ce soir. Vous êtes l'auteur d'un roman paru aux éditions de l'Armançon, Un petit train noir au temps des Doriforts, roman dont l'action se déroule entre le 18e arrondissement de Paris, la butte Montmartre, et Noyères-sur-Serein, roman qui dresse un état des lieux de la vie artistique et culturelle sous l'occupation en France. Vous êtes aussi poète et vous avez été d'ailleurs à ce titre récompensé par la société New Works en recevant la médaille d'or de l'Académie internationale de Lutèce pour un recueil intitulé « Chants des rues et poèmes des champs ». Votre dernier ouvrage, qui s'intitule « Rendez-vous place du Tertre », déborde d'anecdotes savoureuses sur la vie de la butte Montmartre, où vous avez passé une très grande partie de votre existence. Et ce soir, donc, Serge Moreau, printemps des poètes oblige, nous allons avec vous feuilleter votre petit dictionnaire atypique des poètes de langue française à l'usage des amateurs et des curieux, paru il y a maintenant un petit peu plus de 2 ans aux éditions de l'Armançon. Alors, votre petit dictionnaire atypique est une véritable mine d'informations et nous allons d'ailleurs très rapidement nous en rendre compte. Alors, partons donc, Serge, si vous le voulez bien, à la rencontre de ces femmes et de ces hommes qui ont su enchanter leurs contemporains et qui nous enchantent encore. Alors, on va commencer cette émission Wagon Livre, Serge, avec la bonne dame d'Auxerre. Je veux parler de Marie-Noël.
Eh oui. On va commencer par elle et ça me fait grand plaisir. C'est certainement le plus grand, parce que maintenant il paraît qu'il ne faut plus dire poétesse, il faut dire le poète. Alors disons que c'est certainement l'un des 3-4 poètes les plus importants du siècle.
Alors elle est née en 1883.
Et elle s'est épanouie entre le début du siècle et jusqu'à la fin, vers 1967. C'est bien les deux premiers tiers du siècle, si on peut dire.
Elle a reçu le Grand Prix de l'Académie française pour l'ensemble de son œuvre. Et votre maman, Serge, l'a rencontrée à Dige, petit village près d'Auxerre, à un certain moment de son existence.
Eh bien, ma mère avait 19 ans et elle venait de sortir de lycée. Et elle faisait son première classe comme institutrice à Dige. Et elle prenait pension chez des gens dont je n'ai plus le nom, et qui recevait Marie-Noël à chaque fois qu'elle était fatiguée. Elle était fragile, Marie-Noël. Et sitôt qu'elle avait envie de prendre un peu de repos, elle venait à Dige et prenait pension chez ces gens-là. Alors ma mère et Marie-Noël mangeaient ensemble. Marie-Noël avait l'air d'être heureuse de parler avec quelqu'un qui avait un petit peu d'instruction. Et ma mère a eu, de la part de Marie-Noël, un recueil. Le premier recueil de Marie-Noël. Et je dois dire que ma mère, qui était fiancée et pensait à se marier, ce qu'elle a fait dans l'été suivant, eh ben, elle a perdu le recueil. On n'a jamais retrouvé le recueil de Marie-Noël, qui était dédicacé spécialement à ma mère.
Concernant Marie-Noël, je le dis, je vous le dis également, Serge, je le dis également à nos auditrices et auditeurs, la Société des sciences historiques et naturelles de Lyon, l'association Marie-Noël et les membres du jury du prix Marie-Noël décerneront le prix Marie-Noël 2012 le samedi 24 mars prochain à 14h à la maison de Marie-Noël qui se trouve donc au 1 rue Marie-Noël à Auxerre. Il y aura une lecture musicale à déguster, un verre à la main, et c'est donc le prix Marie-Noël 2012 qui va renaître cette année, je tenais à le préciser.
Et c'est une très belle maison, cette maison de Marie-Noël, avec une grande cour à l'intérieur qui jouxte la rue qui doit maintenant s'appeler rue Marie-Noël, je crois. Il y a la pancarte, la plaque de Marie-Noël. Et je suis heureux, j'ai fait quelques photos que personne ne peut plus refaire. Et il y a déjà longtemps, j'ai pu me passer dans la maison et je vous dis faire le reporter personnel de quelques photos privées. Et je me souviens en passant en Marie-Noël de ma grand-mère qui était vigneronne à Chablis, à Fontenay-près-Chablis, et qui me disait, tu vois là-bas, c'est la vieille dame qui écrit des poésies. Parce que pour ma grand-mère, à l'époque de son instruction, on disait des poésies à l'école. Et alors elle dit, tu vois, c'est la vieille dame qui écrit des poésies. Et après, quand j'ai fait le compte, je me suis aperçu que la vieille dame était bien plus jeune que ma grand-mère. Et ma grand-mère, avec, on voit les photos de Marie-Noël qui faisait toujours vieille dame rapidement, alors qu'elle a été jeune aussi. On a quelques photos d'elle où elle est belle et charmante, mais tout de suite, elle a eu un grand problème. On le connaît, la plupart des gens le connaissent, et ça fait partie de l'indication de sa poésie. Elle a été amoureuse, elle a été amoureuse à 19-20 ans, et à l'époque, on se présentait à des dates fixes. À Noël, à Pâques, il y avait une présentation officielle. Et le jour qu'elle devait se rencontrer avec son futur, comme on disait à l'époque, eh bien, le futur avait disparu. Et on ne sait jamais ce qu'il est devenu. On croit savoir qu'il était peintre, artiste peintre. Il a complètement disparu. Et Marie-Noël n'en a pas fait des signes énormes de tristesse, mais elle a été profondément touchée pour le restant de sa vie.
On va laisser de côté Marie-Noël, Serge, pour... parce qu'évidemment, ce soir, on va passer en revue un certain nombre, on ne peut pas s'arrêter sur tous les poètes. Combien y en a-t-il, Serge, dans votre petit dictionnaire atypique, à peu près
700 et quelques.
Un gros travail de recherche.
Trois ans.
D'accord. Alors, Jean Nohain.
Ah ben, Jean Nohain, c'est pas Marie-Noël, hein, ça change un peu. Eh ben, Jean Nohain, il est né en 1900. C'est très important parce qu'on va se rendre compte que né en 1900, il avait 18 ans à la fin de la guerre de 14-18. Mais on ne savait pas que la guerre allait quand même finir. Et à l'époque, on ramassait les soldats à partir de 18 ans. On ratissait large, comme on disait. On avait besoin d'hommes. Et Jean Nohain a été mobilisé et il a fait tout de suite un peloton, comme on dit, à l'armée, un peloton d'élèves sous-officiers. Et le hasard a voulu qu'à l'époque, bien sûr, on était en pleine guerre, et Lyon n'était pas si loin que ça du front. Et dans tous les pays de Lyon, de Paris, de la Seine et du coin, il y avait, la guerre étant tout près, il y avait, les casernes ne suffisaient pas. Et tenez-vous bien, c'est à Saint-Julien-du-Sault que Jean Nohain s'est retrouvé comme apprenti soldat et a fait son peloton de sous-officier.
Auprès d'un adjudant remarquable.
Remarquable, qui lui expliquait comment marchait le canon et qui lui a demandé un jour combien faut-il de temps pour que le canon refroidisse. Et comme tous les soldats ne savaient pas, il s'énervait et finalement la réponse était un certain temps. Et Jean Nohain, il en a rigolé et ça lui est resté. Et quelques 40 ans après, quand Jean Nohain est venu le grand monsieur de la télévision et après la guerre qu'il a créé les fameux 36 chandelles, il avait dans ses principaux animateurs et de ces jeunes qu'il faisait démarrer un certain Fernand Reynaud. Et c'est en racontant l'histoire que Fernand Reynaud s'en est emparé pour faire le sketch à sa façon. Mais l'origine, ça s'est passé à Saint-Julien-du-Sault.
Alors, il faut dire que votre petit dictionnaire atypique des poètes de langue française rend hommage aux chansonniers. Il n'y a pas que des poètes.
J'ai voulu volontairement marquer les chansonniers parce que j'ai une dent contre certains poètes qu'on m'a fait apprendre à l'école primaire et qui m'ont jamais amusé, qui étaient souvent médiocres, mais fallait apprendre tel ou tel poète. Bon. Et je pense qu'il y a chez les paroliers, chansonniers, paroliers, des gens qui ont écrit les paroles de chansons, qui valent, les paroles valent bien, beaucoup mieux que certains poèmes qu'on nous a fait apprendre, de poètes, je vais dire gentiment, qui nous gonflaient, comme disent les jeunes maintenant. Et c'est pour ça que j'ai voulu mettre dans mon recueil de nombreux chansonniers, poètes, car j'estime qu'une belle chanson, ça vaut bien n'importe quel poème.
Alors la transition est toute trouvée, Serge, justement, parce qu'on va évoquer un homme qui est l'auteur de 2000 chansons et qui, un peu comme vous, a eu pour pays d'adoption Noyères-sur-Serein.
Alors là, je vous vois venir, c'est pas 2000, c'est plus de 2500, paraît-il. Et je tiens ça de sa petite fille qui est l'une de mes amies, c'est Charles-Louis Potier, dont une plaque commémore le souvenir sur une place à Noyères, à côté de la pharmacie. C'est facile pour les gens qui vont à Noyères. Et Charles-Louis Potier, je l'ai très très bien connu. C'était un ami de ma famille, c'était le cousin d'amis, etc. C'était un homme de Noyères qui a passé tous ses étés à Noyères et qui a passé le reste du temps, l'hiver, la saison, à Paris. Alors, il s'est mis à écrire des chansons dès 1914, dès la guerre. Il n'a pas été mobilisé parce qu'il avait des yeux très malades, des pauvres yeux, il voyait mal. Et il s'est mis tout de suite à faire des chansons. Et il a fait d'abord des chansons d'époque, qui voulaient que des chansons un peu patriotiques, où le Kaiser, le fameux Kaiser, venait dans les maisons manger des petits enfants, des trucs comme ça. C'était très à la mode, pourvu qu'on tape sur la gueule des boches. Ça faisait plaisir à tout le monde. Et puis après, la guerre s'est arrêtée et il s'est mis à écrire des chansons comiques, surtout comiques. Je ne veux pas que vous les citez, j'en ai au moins 25 dans ma tête. Et puis, comme ça arrive souvent, et ces gens-là, ils sont connus comme producteurs comiques. Et puis, d'une manière inattendue, ils vont faire un chef-d'œuvre qui n'est pas comique lui-même, mais il va plutôt faire pleurer tout le monde, puisque c'est...
Les roses blanches.
Voilà, voilà.
Alors, on peut mentionner aussi, l'Hôtel des Trois Canards, mais qui connaît cette chanson? Moi, je la connais.
Bon,
connaissez-vous
bravo.
L'Hôtel des Trois Canards?
Bon, coin.
Exact, Serge.
Oui, je l'ai bien. Ça, c'était Marie Dubas qui chantait ça.
Et puis, il y a aussi, quand même, la célèbre chanson Félicie.
Si, aussi. Et oui. Voilà, que Fernandel a immortalisé. Et puis, il y a d'autres chansons aussi qui ont bien marqué, bien marqué. Donc, une qui est plutôt poétique, c'est « On n'a pas tous les jours 20 ans ». Et c'est devenu presque un proverbe. Et c'est la marque d'une grande qualité. Quand un monsieur, en 4 mots, 5 mots, met un vers pareil, eh bien, il mérite une statue.
Si certains méritent une statue, Serge, nous méritons, de notre côté, une pause. Et puisque cette année, nous allons commémorer le 50e anniversaire de la mort de Charles-Louis Potier, je vous propose de descendre à l'Hôtel des Trois Canards, interprété par Marie Bizet en 1941. On se retrouve dans quelques minutes avec notre invité Serge Moreau pour son petit dictionnaire atypique des poètes de langue française, paru aux éditions de l'Armançon.
Connaissez-vous l'Hôtel des Trois Canards? Il est dans un petit patelin quelque part. Comme c'est le seul qu'on puisse y dénicher, malgré soi, il faut bien y coucher. Y'a pas de garage, il faut ranger l'auto dans une étable entre une vache et un veau. Et par les trous qu'il y a dans la toiture, les pigeons déshonorent votre voiture. Dans votre chambre est un vieux lavabo, mais le malheur c'est qu'il n'y a pas d'eau. Et pour se débarbouiller le matin, faut descendre à la pompe du jardin. Connaissez-vous l'Hôtel des Trois Canards? Il y a des souris qui trottent dans les placards. Heureusement que pour venir les chasser, sous chaque porte un gros chat peut passer. Dans votre lit, il y a des draps rapiécés. Et du sommier, les ressorts sont cassés. Quand on se retourne, ça fait un tel bruit qu'on n'ose plus remuer de la nuit. Comme dans la cour, il y a aussi la basse-cour. Un sacré coq vous réveille au petit jour. Encore endormi, mais de l'église à côté, il y a la cloche qui vous fait sursauter. Connaissez-vous l'Hôtel des Trois Canards? Dans la commode, on y trouve des cafards. Il n'y a pas de rideau, les volets ferment mal. Dans la fenêtre, il faut mettre un journal. Mais le plus beau, c'est le moment du repas. Tout ce que l'on veut, c'est réglé, il n'y en a pas. Si vous demandez une friture de goujon, on vous sert une omelette à l'oignon. Comme la fontaine est très loin dans le pays, et que la patronne a faim de faire son frichti, avec un son des fêtards. Oh, connaissez-vous l'hôtel des Trois Canards? Dans le bistrot d'en bas, il y a un billard. Mais on ne peut pas y jouer parce qu'il n'y a qu'une bille et ensuite, il n'y a pas de queue. L'endroit discret n'est pas dans la maison, mais à côté de la cabane, au cochon, faut une bougie pour s'y rendre la nuit. Et s'il pleut, faut prendre un parapluie. On a bonne mine. On quitte l'hôtel disant c'est pas trop tôt. Et dans les tables, on va chercher l'auto. Mais l'optimo, prenant ça pour du foin de votre bagnole à bouffer les coussins. Oh, connaissez-vous l'hôtel des Trois Canards? Quand on y va bien plus vite, on en part. Si par hasard, un jour vous y allez, tout comme moi, jamais vous n'y reviendrez.
Radion. Radion. Le printemps des poètes ce soir sur Radion avec notre invité Serge Moreau, poète et romancier, érudit, j'allais dire conteur et raconteur, Serge.
Raconteur.
Raconteur.
Parce que conteur, je ne suis pas conteur. Conteur, on dit tout le monde, c'est un conteur. Les 9 dixièmes des gens que je connais, ils racontent. Ils racontent plus ou moins bien, ils racontent. En améliorant le texte, on a une façon de dire, etc. Parce que le conteur, le vrai conte, c'est « Il était une fois dans les bois, une petite fille qui ramassait du bois et un jeune prince est passé », ça peut être ça. C'est quelqu'un qui crée une histoire. Mais raconter, c'est déjà, pour moi, insuffisant. Je ne vais pas faire des contes parce que je n'ai pas envie de... Je ne suis pas conteur, je suis raconteur.
Je voudrais simplement, on ne va pas trop s'y attarder, mais je voudrais bien sûr rappeler que cette année, nous commémorons le centenaire de la naissance de Henri Vincenot, l'auteur de la Bibaude et des Étoiles de Compostelle. On rappellera très rapidement, Serge, on ne va pas s'y attarder, quand bien même Henri Vincenot mérite respect et considération, mais nous rappellerons qu'il a composé un recueil de poésie intitulé « Psaume à Notre-Dame en faveur de notre Fils ». En revanche, Serge, si vous le voulez bien, j'aimerais que vous nous présentiez un sous-préfet original qui s'appelle Stéphane Liéjard
et qui est né à
Dijon en 1830.
Alors, il a fait de brillantes études et puis il est rentré dans le corps, justement, de la préfecture. Et il était sous-préfet à Carpentras. Et alors, on raconte qu'un jour qu'il faisait chaud, il allait faire un discours, il avait trop chaud, son discours n'était pas fini, il a fait arrêter sa calèche, je ne sais pas comment on pouvait dire, sa calèche. La voiture de la sous-préfecture à cheval. Et dans le gazon, il aurait fini de corriger son discours. Et il était assez farfelu, ce monsieur Stéphane Liéjard. Et le bruit en serait venu aux oreilles de... Alphonse Daudet, et c'est de cette histoire qu'Alphonse Daudet a écrit le fameux sous-préfet au champ. Voilà, tout est venu de là. Alors, pour parler un peu plus de monsieur Stéphane Liéjard, très connu à Dijon, il a sa rue, il a son château qui est devenu un lycée. D'ailleurs, en banlieue de Dijon, il a un lycée qui porte son nom. Et il a fini une carrière. Oh, il a fait plein de choses. Il a même fait, à un moment donné, il a fait de la politique. Il n'a pas continué tout le temps dans la préfecture. Et puis, il s'est retrouvé en retraite dans le Midi, puisqu'il avait été déjà à Carpentras. Et il a écrit un livre. Il était heureux. Il se sentait bien dans le Midi. Il a écrit un livre sur les beautés des villes où il allait se promener. Et il a intitulé son livre « La Côte d'Azur ». Un splendide, une sorte de poème, finalement, dédié à la beauté de cette région qu'on appelait la Riviera. Il y avait la Riviera française et la Riviera italienne. Et lui, son livre a eu tellement de succès. Je l'ai vu, son livre, j'ai des coupures ici à ce sujet-là. C'était très bien. Il vante les mérites de Cannes, de Nice, de Beaulieu, de tout le coin. Et son livre a tellement eu de succès qu'il a donné le nom, c'est lui qui a donné le nom à cette région qu'on appelle maintenant la Côte d'Azur.
Parlons, Serge, si vous le voulez bien, de Stéphane Mallarmé, né en 1842.
Un autre Stéphane.
Un autre Stéphane, et qui vit à... Je veux dire, a été élève...
Il est bourguignon si on veut, mais est-ce que Sens est en Bourgogne? Je sais que je vais me faire arracher les cheveux, par des gens, parce que on a créé la Bourgogne avec 4 départements qui s'élargissent, qui s'allongent, et le haut de l'Yonne n'a rien à voir avec la Bourgogne, c'est le bassin parisien. Bon, mais à Sens, il est arrivé à un monsieur qui s'appelait Stéphane Mallarmé, qui a fini ses études et qui est revenu quelques années après comme professeur d'anglais. Voilà.
Créateur du courant symboliste. Alors avec Verlaine, on va pas développer.
Voir mais... les livres spécialisés.
Il en y en revanche, a tellement. En revanche, Serge, le spécialiste, c'est vous ce soir, et j'aimerais bien que vous nous parliez de Clément Privé.
Oh, Clément Privé.
Alors, Clément Privé, il est né à Fontaine, de Toussy, un petit village de Puisay. Et alors, Clément Privé, c'est un poète qui est venu à vous, Serge, et en fin de compte... ce pauvre Clément Privé s'est vu confisquer un sonnet qu'on attribue, par erreur, semble-t-il, à Stéphane Mallarmé.
Alors voilà en deux mots, c'était un peu compliqué, mais Clément Privé, il avait, d'après ses lectures et tout, touché par la grâce montmartroise. Déjà, on parlait des écrivains de Montmartre, des poètes de Montmartre. Et lui, il a fait des études pour être une sorte d'agent voyer. D'agent, ce qu'on appelait dans les campagnes l'agent voyer. Il a travaillé dans le centre de la France, à droite, à gauche. Il avait une vraie profession officielle, fonctionnaire, mais il était torturé par le besoin d'écrire des poèmes et des histoires. Et il a écrit d'ailleurs beaucoup de poèmes qui ont été édités dans le journal de Lyon, dans le journal de Lyon de l'époque, qui était peut-être le Bourguignon ou après, je ne sais plus. Et Clément Privé est donc arrivé un jour à Montmartre, au Chat Noir, où il a donné quelques poèmes, dont surtout un poème important qui, par un hasard qu'on arrive mal à définir, moi je sais à peu près comment ça s'est passé, mais des tas d'écrivains ne veulent pas l'admettre, il a été attribué à Stéphane Mallarmé. Je ne vois pas du tout comment Stéphane Mallarmé aurait pu écrire un poème de chansonnier. Mais peut-être, c'est la supposition que nous faisons, Stéphane Mallarmé n'est pas quand même le bonnet de nuit qu'on pourrait croire, le monsieur sérieux, le professeur, etc. Qui, entre parenthèses, c'est un professeur pas très bien vu, à un sens. Et après, à Paris, il était ennuyeux, les élèves ne l'aimaient pas trop parce qu'il était ennuyeux. Il était agréable que dans ses soirées chez lui. Alors là, il y avait un monde fou, etc. Bon, mais il a trouvé le poème de Clément Privé. Il l'a certainement copié de ses mains, puisqu'on a une feuille de papier où on voit le sonnet de Clément Privé et de l'écriture de Stéphane Mallarmé. Mais comment Stéphane Mallarmé aurait pu passer des nuits entières à Montmartre, au Chat Noir, alors que Clément Privé, avant de mourir dans la misère, parce que les chansonniers qui n'avaient pas un deuxième métier, ils crevaient de faim, surtout faut le dire que le patron du Lapin Agile, du Chat Noir, c'était Salis, et Salis était un pingre effroyable et reconnu par tout le monde. Et le pauvre Clément Privé est mort totalement dans la misère, mais Salis a récupéré son sonnet et n'avait pas peur de le dire le soir en débutant au Chat Noir, en laissant sous-entendre que peut-être c'était peut-être lui, en ne disant pas de qui était l'auteur, on pouvait supposer que c'était peut-être Salis lui-même, alors que Salis n'a jamais rien écrit, on ne connaît rien de Salis. Voilà comment ce fameux... Et alors, ce qui est extraordinaire, c'est que des gens supérieurs en tout et qui ont créé et composé la collection des poèmes de Mallarmé à la Pléiade ont mis en première page le poème de Clément Privé, ce qui fait que des tas de gens vous disent « Monsieur, vous êtes un âne, regardez la Pléiade, c'est dedans. »
Des étincelles de poésie ce soir sur Radion à bord de Wagon Livre à l'occasion du 14e printemps des poètes. Nous allons écouter Serge, si vous le voulez bien, un poème de Charles Baudelaire, extrait des Fleurs du Mal, un poème mis en musique et en chanson par François Fellman, Le Serpent qui danse. Retour d'ici quelques minutes avec notre invité, Serge Moreau.
At night in bed, I read poems by Charles Baudelaire. François, would you recite them for me?
soir, chère indolente, de ton corps si beau, comme une étoffe vacillante miroitait la peau. Sur ta chevelure profonde, aux âcres parfums, mer odorante et vagabonde, aux flots bleus et bruns, comme un navire qui s'éveille au vent du matin, mon âme rêveuse appareil pour un ciel lointain. Tes yeux, où rien ne se révèle de doux ni d'amer, sont deux bijoux froids où se mêlent l'or avec le fer.
Joigny, 95.
Alors évidemment, dans votre petit dictionnaire atypique des poètes de langue française, on a le choix. Hein. Je voudrais bien sûr signaler que vous évoquez Max-Paul Fouché, le poète qui s'est beaucoup donné au journalisme filmé, qui a été aussi critique d'art et qui repose d'ailleurs au cimetière de Vézelay, où sa pierre tombale dit qu'il aima la liberté. Hein.
Poète, philosophe.
Alors Nicolas Boileau, vous en parlez inévitablement parce que c'est le théoricien du classicisme, celui qui a écrit « Ce que l'on conçoit bien s'énonce clairement » et les mots pour le dire arrivent aisément. D'ailleurs, Claude Chapuis, qui est l'auteur d'un livre d'édition de Bourgogne qui s'intitule « La mémoire des coteaux », me disait très récemment à Dijon que Nicolas Boileau avait possédé des vignes dans le Tonnerrois.
Oui, on me l'a dit, mais je ne sais pas où.
Alors Serge, parlez-nous de Robert Gall.
Ah, Robert.
Un monsieur que vous avez connu.
Oh oui, nous nous sommes côtoyés de nombreuses années. Je connaissais bien Robert, sa femme, sa fille France, qui n'était pas France. C'est Robert qui, lui, était un gars du métier. Hein. Robert a fait du cabaret, a chanté, a gagné sa vie en chantant dans les cabarets, notamment à Marseille pendant la guerre, et qui connaissait bien le métier. Et quand sa fille, qui s'ennuyait énormément à l'école, a quitté l'école à 16 ans, quelque chose comme ça, elle s'est mise lancée dans la chanson, Sacré Charlemagne, Poupée de cire, Poupée de son après, etc., etc. Mais elle était mineure, surtout qu'à l'époque, on était majeur à 21 ans, et Robert l'a accompagnée presque partout dans ses voyages, d'autant plus qu'il était pour la protéger, mais lui donner des conseils du métier, te laisse pas avoir par un tel, n'écoute que un tel, etc., car il connaissait le métier par cœur, avec ses pièges, son bon et son mauvais. Et j'ai très très bien connu Robert, et vraiment on a passé à titre amical des bonnes journées, des bonnes soirées ensemble, et on était tous les deux des deux gars de Lyon, lui de Puisé, moi de Chablis, lui qui a démarré dans la chanson à Auxerre grâce au frère Berthier, parce qu'il était venu avant-guerre commencer à apprendre la chanson, et il s'est marié avec l'une des filles Berthier. Voilà.
Alors on va maintenant évoquer des poètes qui vous sont chers, en tout cas, ainsi que tous ceux qui figurent dans votre petit dictionnaire atypique des poètes de langue française. Parlons, si vous le voulez bien, Serge, des poètes montmartrois.
Ah. Eh bien oui, un beau jour, là ça sera encore un roman, on pourrait dire que je raconte pendant 3 heures, les hasards ou les bonnes choses de la vie m'ont fait arriver à Montmartre. Et j'y suis resté. J'ai travaillé pendant 20 ans. Et puis, j'ai continué à toujours rester, quand on a un pays qu'on aime, comme l'autre disait, j'ai deux amours. Et ben moi, je peux dire, Chablis et Montmartre. Et j'ai vécu, j'ai encore des amis qui, hélas, disparaissent de plus en plus. Et j'ai vécu pendant, en gros, de 1960 à 1980 à fond, et puis après j'ai continué toujours à aller à Montmartre, et j'ai vécu avec toute la faune, toute la bande qui a existé pendant 30 ans.
Rendons hommage à un roi du burlesque et de l'absurde, Alphonse Allais.
Oui, ben Alphonse Allais, il a écrit quelques poèmes, mais surtout de l'absurde, un peu comme Pierre Dac, c'était de la loufoquerie avant Pierre Dac, qui lui a inventé le mot loufoque. Et justement, il avait dans la tête sans arrêt des idées, il débordait d'idées, mais au point de vue, il a écrit surtout un recueil qui s'appelle « Rime pour l'œil », et bien mieux, il a trouvé une chose. Dans les écoles, on apprend toujours les poules du couvent.
Couve.
Les poules du couvent couvent. De façon d'écrire le même mot et de le prononcer différent.
C'était sur l'homonymie.
Eh bien oui, ben lui, il a trouvé mieux. Il a trouvé 3 noms qui se suivent, qui s'écrivent pareil et qui se prononcent absolument différents. Ça, il faut quand même le signaler, si je me permets. Et c'est poétique, puisque tout vrai poète tient à friser le quotient de ceux qui balbutient. Faites mieux, apportez-le-moi.
On s'arrête maintenant sur Charles Cros.
Charles Cros est un grand monsieur qui est le type même du scientifique poète. Alors, il est un moment poète, un moment scientifique, mais qu'on ne nous embête pas en disant qu'il faut être scientifique pour être poète, etc., etc. Je connais la chanson. Il est très célèbre, il était plein d'humour, et il a écrit surtout un poème qui s'appelle « Le hareng sort », sec, 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 le long de l'échelle haute, 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 etc. Mais moi, je crois qu'il est aussi beaucoup plus célèbre pour avoir écrit une des paroles d'un poème qui est devenu célèbre. C'est le fameux « Sidonie a plus d'un amant » dont Jean-Max Rivière a fait la musique et qui a été « On ne peut plus célèbre » grâce à Brigitte Bardot.
Très bien, Serge. Alors, juste avant Paul Claudel dans votre dictionnaire, vous avez mis en valeur Fernand Clat.
Ah, Fernand Clat, c'est le poète de Puisé par excellence.
Alors, né dans le petit village de Leuny.
Oui, et il s'appelait de son vrai nom Colas. Et il a enlevé le O parce qu'il ne voulait jamais qu'on parle d'eau autour de lui. Il ne connaissait que le vin. Voilà. C'est un homme plein d'humour et qui a passé ses études à Auxerre et qui était clerc de notaire, si je ne m'abuse, et qui a passé sa vie à Paris en s'occupant beaucoup, beaucoup des gens de Lyon, les aidant même aux besoins, et il participait à tous les banquets des Poyaudins à Paris. Le drame, c'est qu'il a écrit toujours en patois, un simili-patois pour que tout le monde comprenne, mais il a écrit en patois, et voilà ce qu'il arrive quand on écrit qu'en patois, eh bien on n'est connu que de sa région, ça ne déborde pas, alors que Clat est un grand, grand poète. Et il a écrit par exemple un poème merveilleux, que je n'ai pas le temps de vous dire ici, sur les nourrices morvandelles. Il faut que les gens le cherchent pour le lire. C'est l'un des plus beaux poèmes qui ait jamais été écrit sur les nourrices morvandelles.
Qui a pour titre « La nourrice sur lieu ». Lieu,
voilà. C'est la lettre d'une femme qui est d'une nourrice, qui est à Paris. Elle écrit à son mari, elle lui raconte comment elle est, belle, etc. Mais qu'il faut qu'elle fasse attention parce que son patron tourne autour d'elle. Et je crains bien qu'il va m'arriver des histoires.
Fernand Clat, né à Leugny, donc en 1865, est mort à Paris en 1935, qui figure donc dans le petit dictionnaire atypique des poètes de langue française de notre invité Serge Moreau ce soir sur Radio. Serge, si vous le voulez bien, on marque une petite pause, on boit un petit verre d'eau et on se retrouve dans quelques minutes.
Un verre d'eau,
ou autre chose. Rendez-vous d'ici quelques minutes avec Serge Moreau, notre invité.
Ce sont de drôles de types qui vivent de leurs plumes ou qui ne vivent pas, c'est selon la saison. Ce sont de drôles de types qui traversent la brume avec des pas d'oiseaux sous l'aile des chansons. Leur âme est en carafe sous les ponts de la Seine, leur sou dans les bouquins qu'ils n'ont jamais vendus, leur femme est quelque part au bout d'une rengaine qui nous parle d'amour et de fruits défendus. Ils mettent des couleurs sur le gris des pavés, quand ils marchent dessus, ils se croient sur la mer. Ils mettent des rubans autour de l'alphabet et sortent dans la rue leurs mots pour prendre l'air. Ils ont des chiens parfois compagnons de misère et qui lèchent leurs mains de plumes et d'amitié avec dans le museau la fidèle lumière qui les conduit vers les pays d'absurdité. Ce sont de drôles de types qui regardent les fleurs et qui voient dans leurs plis des sourires de femmes. Ce sont de drôles de types qui chantent le malheur sur les pianos du cœur et les violons de l'âme. Leurs bras tout déplumés se souviennent des ailes que la littérature accrochera plus tard à leur spectre gelé au-dessus des poubelles où remoueront leurs vers comme un effet de l'art. Marchent dans l'azur, la tête dans les villes, et savent s'arrêter pour bénir les chevaux. Ils marchent dans l'horreur, la tête dans des îles, où n'abordent jamais les âmes des bourreaux. Ils ont des paradis que l'on dit d'artifice, et l'on met en prison leurs quatrains de 10 sous. Comme si l'on m'était offert un édifice sous prétexte que les bourgeois sont dans les goûts.
Plus proche de vous, partout, pour vous, Radion, au cœur de la Bourgogne.
Notre invité ce soir, c'est Serge Moreau. À l'occasion du printemps des poètes, nous nous amusons avec lui et nous nous cultivons autour de quelques figures poétiques. Ce sont bien évidemment des choix arbitraires. On ne peut pas rendre hommage à tous les poètes qui figurent dans son petit dictionnaire paru aux éditions de l'Armançon. Je signale simplement qu'à Clamecy, les 16 et 17 mars prochains, entre 20h30 ou à 15h, Gérard André chante Jean Ferrat. Je tenais à le préciser parce que le printemps des poètes, c'est aussi le printemps de la chanson française et des beaux textes. On est cette fois-ci sur la butte, Serge. Alors parlons de quelqu'un qui est né dans le Loiret en 1851, c'est Aristide Bruand, qui a d'ailleurs fait ses études au Collège impérial de Sens.
C'est exact. Il ne les a pas fait très très longtemps parce que son père, qui était au bord de la ruine à Paris, parce qu'il y aurait tout un roman à raconter sur la vie de Bruant, de la famille de Bruant. Son père a liquidé, si on peut dire, leur propriété en réfléchissant la façon de gagner de la vie et devenir milliardaire, et il ne pouvait réfléchir qu'accoudé à un bistrot, au bar d'un bistrot. Alors le résultat a plutôt été décevant. Et Bruant était au lycée impérial de Sens, où on a retrouvé des notes des lycées où il était toujours bon élève en français, en chant, en dessin un petit peu, mais surtout en français. On n'a jamais retrouvé en mathématiques. Bon. Et Bruant arrive à Paris et son père lui fait travailler. Il apprend le métier d'horloger. Et puis après, lui-même, il en a marre. Il a été un petit peu dans la basoche et il rentre au chemin de fer, et le hasard veut qu'un jour, en chantant un dimanche, des copains le font monter sur une table et lui disent « Allez, chante-nous une chanson, t'as une belle voix, toi, chante-nous une chanson. » Et il chante des chansons de l'époque, et il est applaudi. Et alors, il prend l'habitude, mais je ne vais pas raconter toute la vie de Bruant, il faudrait des heures, et quelqu'un l'aide un petit peu, et il arrive au bout d'un moment, toujours habillé en gommeux de l'époque, c'est-à-dire en frac, chapeau 8 reflets, etc. Et il arrive à chanter pendant un moment comme ça. Puis un beau jour, du jour au lendemain, il a eu l'idée de s'habiller. Ses copains lui disent « on n'est pas à carnaval » et on le voit du jour au lendemain habillé avec un chapeau breton, une écharpe rouge et un complet de velours et une chemise rouge. Et il arrive chez Salis, au
Chanois,
où il crée cette chanson « Je cherche fortune » à minuit autour du Chat Noir, et il rentre dans l'équipe, et ça ne se passe pas très bien, parce que tout le monde sait, Salis était d'une pingrerie hors du commun. Il y a eu des histoires avec Salis et des filles sur le trottoir, et les macros lui ont promis de lui casser la gueule. Salis a peur, il déménage, il va un peu plus loin avec toute une caravane de gens qui l'aident à déménager, et Bruant prend l'emplacement de Salis, le transforme et l'appelle le Mirliton. Et Bruant crée toutes les chansons qu'on peut connaître de lui, des très belles chansons, et puis des chansons pas de corps de garde, mais des chansons d'armée, gaillardes, et c'est le personnage extraordinaire dont on pourrait écrire 10 livres et parler pendant 10 heures.
Alors parlons d'André Gilles, Serge.
Alors, André Gilles...
Est-il vraiment un poète ?
C'était un chansonnier, plutôt. Un chansonnier, un rimailleur. Un rimailleur qui était aussi un très très bon peintre-dessinateur. Et il avait, malheureusement, c'est un air qui flotte dans Montmartre, on lève facilement le coude dans Montmartre. Il faut reconnaître que dans une chanson du Lapin à Gilles, justement, qui s'appelle Frédé, il y a un refrain, un vers qui dit « Et l'on buvait pas mal aussi ». Même dans la chanson Frédé. Bon, et alors André Gilles traînait autour de ce cabaret qui s'appelait le cabaret des assassins, qui était tenu par un monsieur qui s'appelait Gérard, et qui avait une grande barbe, qui avait un âne, une trompette, et qui vendait de la morue dans Montmartre. Et il s'appelait Frédéric Gérard, d'où le terme de définitif de Frédé, cette belle chanson merveilleuse qui est créée par Cora Vautker. Frédé, dis-moi sur ta guitare la belle chanson que tu sais. Et à ce moment-là, ce peintre chansonnier tout a eu l'idée de dessiner un splendide lapin qui saute d'une casserole en tenant une bouteille à la main. Alors là, il y a un double jeu de mots, triple jeu de mots, tout ce qu'on veut, parce qu'on voit le lapin qui saute, c'est un lapin vigoureux qui gigote et qui est agile. Et il a été peint par un monsieur qui s'appelle André Gilles, et qui signe A. Gilles. Alors tout mélangé a donné le nom au célèbre cabaret qui est presque le témoignage de la chanson française de nos jours, parce qu'il ne reste plus grand chose comme cabaret, mais il y a encore le Lapin à Gilles à mi-but le long de la vigne.
Pas très loin effectivement des vignes.
En face.
Alors Serge, on reste bien évidemment avec vous au cœur de Montmartre, sur la butte et sur les ondes de Radionne, en évoquant quelqu'un que vous avez bien connu, c'est Bernard Dimet.
Ah Bernard, oui, on s'est connu tellement qu'on s'est côtoyé pendant plus de 30 ans.
Alors Bernard Dimé, il est né en 1931, il est mort très jeune, hein, il est mort en 81, il a 50 ans.
Oui, oui.
Et vous, ben vous avez levé le coude avec lui.
Mais tout le monde. Alors là, je vais enlever une légende. Le nombre de gens qui m'ont dit « Ah, je connais très bien Bernard Dimé, c'est un de mes amis. » Il suffisait de boire deux fois un verre avec Bernard à un comptoir, qui vous tapait sur le ventre et disait, en allumant une cigarette, « Tiens, viens, on va boire un verre. » Eh bien, tout le monde pouvait être le copain de Bernard. Des tas de gens me disent, « Ah, j'ai Bernard Dimé, vraiment. » Bon, mais moi, on est 7 ou 8 à l'avoir vraiment côtoyé pendant 30 ans.
Et vous le rencontrez dans un lieu mémorable.
Mythique, carrément mythique.
C'est le Pichet du Tertre.
Le Pichet du Tertre, tenu par un homme mythique aussi, extraordinaire, qui s'appelait Roberto Attilio et que tout le monde appelait Toto. Et on disait, on va chez Toto ou on va au Pichet du Tertre. Des histoires avec Toto, et là, il y en aurait aussi, il faudrait des heures pour tout vous raconter. Et Bernard, quand il est arrivé à Montmartre, amené par un autre ami qui s'appelle Jean-Claude Dragomir, ils se sont connus au régiment Boulevard Mortier. Bernard, en entendant que Jean-Claude était peintre à Montmartre, il n'en venait pas, et Jean-Claude lui dit « Je t'emmène à Montmartre ». Et le dimanche suivant, il l'a amené, et il l'a présenté à Attilio, qui s'est occupé de le loger et tout, et Bernard a jeté l'ancre définitivement à Montmartre pour y passer sa vie. Il allait un petit peu voir ses parents à Nogent, et il revenait tout de suite à Montmartre. Il a fait deux voyages dans sa vie, une fois au Canada et une autre fois en Égypte, puisqu'on a une vraie photo de lui, photographiée sur un chameau à côté d'une pyramide.
Alors, qu'est-ce qu'on conserve aujourd'hui? Quel souvenir garde-t-on? Alors déjà, vous, Serge, le personnage.
Haut en couleur, un petit bonhomme, rond, gros, barbu sur la fin, adorable et se laissant pas marcher sur les pieds, et ayant la parole facile, est capable en 10 secondes de démolir un gars qui l'emmerdait. Ça, c'était Bernard. Mais à côté de ça, une intelligence, une culture hors du commun une facilité d'écrire de la poésie étonnante.
Mais c'est un raconteur, lui.
Il racontait des histoires aussi, mais où est la limite? Il n'y a pas de poteau, on est à table, on cause, on truc. Et ben, il avait un truc à nous raconter, il nous racontait une histoire, ça c'est sûr. Mais tout le monde est un peu raconteur à Montmartre, ou peintre, ou chanteur. Qu'est-ce qu'on peut faire d'autre? Voir un coup.
Il est très souvent imbibé, Bernard Dimé.
Alors, au bout de quelques années, il va se laisser prendre par la boisson, comme beaucoup d'autres, oui, beaucoup d'autres, on pourrait citer, c'est pas une tare, mais c'est malheureux. Et Bernard a pu écrire quand même de nombreux, nombreux poèmes qui sont reliés dans trois livres qu'on trouve dans Montmartre et ailleurs. Beaucoup de jeunes troupes de comédiens s'en servent pour faire des montages. On peut faire des montages parce que la poésie de Bernard Dimé est très parlée. Alors, il y a une chose. Pour les gens de Paris, les fameux germano-pratins, pour qui il n'y a que l'intelligence raffinée qui peut être quelque chose, la poésie de Bernard qui est faite avec des mots de tous les jours, d'une eau qui coule sur le ruisseau, d'un caillou, d'une pute, d'un vent, d'un bonhomme et tout, paraît un petit peu mauvaise. Alors que Bernard, je le dis sans gêne, c'est l'un des plus grands poètes du siècle français.
Et puis, Serge, reste des chansons.
Alors, le hasard a fait qu'il écrivait des poèmes et qui ont fait des chansons, et quatre sont restés parmi nous, en dehors de ces recueils qui sont très très beaux, et on peut faire de la poésie, ça touche la tragédie certaines fois. Eh bien, on peut citer « L'amour et la guerre » qu'il a fait avec Aznavour, et ça a été interdit, ils n'ont pas eu de chance.
La guerre et la paix, Serge.
Qu'est-ce que j'ai dit?
J'ai dit l'amour et la guerre. Non, c'est la guerre et la paix, chantée par Aznavour.
Par Aznavour, excuse-moi de mémoire, je me plante un petit peu. Et puis, c'était la guerre en Algérie, ça a été interdit. Après, il a fait une très belle poésie-chanson qui a été récitée, marmonnée, chantonnée par
Michel Simon,
qui l'a dit très bien. C'était Mémère, une très belle chanson d'amour. Et Brel a dit pour lui que c'était le plus beau poème d'amour qu'il connaissait, et c'est de là qu'il a fait sa chanson, les vieux amants. Et alors, après, comme autre chanson, alors là, c'est le noyau, c'est le bijou, c'est Mon truc en plume et Syracuse. Voilà, les grandes chansons de Bernard.
Serge, le moment est venu de nous quitter. En tout cas, merci.
Déjà, hélas.
Mais nous avons eu beaucoup de plaisir à vous avoir ce soir dans le cadre du Printemps des Poètes, à bord de Wagon Livre, l'émission littéraire de Radion. Je rappelle donc l'ouvrage dont il a été question ce soir, et merci encore de votre érudition, Serge. Le petit dictionnaire atypique des poètes de langue française à l'usage des amateurs et des curieux. C'est signé donc Serge Moreau aux éditions de l'Armançon. Et puis votre petit dernier, c'est Rendez-vous place du Tertre aux éditions...
Saxo.
Aux éditions Saxo. Une édition montmartroise où là on retrouve des anecdotes savoureuses sur une...
C'est 20 ans de souvenirs montmartrois. J'ai pas pu tout mettre hélas parce qu'il m'aurait fallu 3-4 bouquins.
Merci Serge et bonne soirée.
Merci Yann.
Si l'on ne voit pas pleurer les poissons qui sont dans l'eau profonde, c'est que jamais quand ils sont polissons, leur maman ne les gronde. Quand ils s'oublient à faire pipi au lit, ou bien sur leurs chaussettes, ou à cracher comme des papolis, elles restent muettes. La maman des poissons, elle est bien gentille, elle ne leur fait jamais la vie, ne leur fait jamais de tartines. Ils mangent quand ils ont envie et quand ça a dîné sardine. La maman des poissons, elle a l'œil tout rond, on ne la voit jamais froncer les sourcils. Ses petits l'aiment bien, elle est bien gentille, et moi je l'aime bien avec du citron. La maman des poissons, elle est bien gentille, s'ils veulent prendre un petit verre, elle les approuve de deux ouïes, leur montrant comment sans ennui, on les décroche de leur patère. La maman des poissons, elle a l'œil tout rond, on ne la voit jamais froncer les sourcils. Ses petits l'aiment bien, elle est bien gentille, et moi je l'aime bien avec du citron. La maman des poissons, elle est bien gentille, s'ils veulent être maquereaux, c'est pas elle qui les empêche de se faire des rêbles sur le dos dans un banc à peinture fraîche. La maman des poissons, elle a l'œil tout rond, on ne la voit jamais froncer les sourcils. Ses petits l'aiment bien, elle est bien gentille, et moi je l'aime bien avec du citron. La maman des poissons, elle est bien gentille, j'en connais un qui s'est marié à une grande république. Il dit quand elle lui fait la nique, ah qu'est-ce que tu me fais marrer. La maman des poissons, elle a l'œil tout rond, on ne la voit jamais froncer les sourcils. Ses petits l'aiment bien, elle est bien gentille, et moi je l'aime bien avec du citron. Si l'on ne voit pas pleurer les poissons qui sont dans l'eau profonde, c'est que jamais quand ils sont polissons, leur maman ne les gronde. Quand ils s'oublient à faire pipi au lit, ou bien sur leurs chaussettes, ou à cracher comme des papolis, elles restent muettes. La maman des poissons, elle est bien gentille.
La maman des poissons par Bobby Lapointe. Quelques informations pour les jours et semaines à venir avant de nous séparer. Demain à 18h30 à la bibliothèque Jacques Lacarrière, rendez-vous de lecture. Comme tous les mois, eh bien c'est l'occasion de partager et d'échanger sur ces lectures. C'est à la bibliothèque donc d'Auxerre, demain à 18h30. Demain toujours, jeudi 15 mars, cette fois-ci, mais c'est à Vézelay, de 10h à 17h, une journée de rencontres poétiques est organisée conjointement par la Maison Jules Roy et par la résidence Girard de Roussillon. Demain à 11h, sur le parvis de la basilique Sainte-Marie-Madeleine, vous pourrez découvrir des stands de mandalas géants poétiques ouverts à tous. Et l'après-midi, de 14h à 16h, eh bien, la scène est ouverte pour des lectures de textes à la Maison Jules Roy. Journée qui se terminera par la remise des prix du concours d'affiches poétiques. Renseignements auprès de la résidence Girard de Roussillon au 03 86 33 39 39, 03 86 33 39 39. Bien évidemment, impossible de ne pas mentionner Le Salon du Livre de Paris qui va ouvrir ses portes dans quelques jours, le 16 mars prochain, et qui les fermera le 19 mars, c'est la littérature japonaise qui est l'invité d'honneur de cette 32e édition. On mentionnera aussi la présence de maisons d'édition bourguignonnes. 7 maisons d'édition bourguignonnes auront des stands, à savoir les éditions de Bourgogne, les éditions du Chemin de Fer, Doyen Éditeur, les éditions d'Un Noir Si Bleu, l'Escargot Savant, les éditions du Murmure et les éditions Raison et Passion du 16 au 19 mars prochain, porte de Versailles à Paris. Et puis, plus proche de nous, c'est à la chapelle Saint-André, dans la Nièvre, à mi-chemin entre Auxerre et Nevers, à 15 km de Clamecy, le 3e salon du livre de la chapelle Saint-André, qui se tient donc les samedis 17 et dimanche 18 mars, de 9h à 18h à la salle des fêtes de ce village, avec de nombreux auteurs en dédicace, notamment l'invité d'honneur est Evelyne Dress, mais il y aura un grand nombre d'autres auteurs présents avec lesquels vous pourrez bavarder, échanger et vous faire dédicacer vos livres. La veille du salon de la chapelle Saint-André, à 20h, le vendredi 16 mars, à la salle des fêtes de la chapelle Saint-André, l'historien Gilles Plattret donnera une conférence sur l'histoire des loups en Bourgogne. Gilles Plattret, que nous avons déjà eu le plaisir de recevoir dans Wagon Livre l'année dernière. Le 17 mars prochain, samedi, à partir de 17h, la bibliothèque de Migennes et les amis de la bibliothèque de Migennes accueillent le spectacle de Barbara Moreau. C'est moi, Gadine, spectacle que donnera donc Barbara Moreau, accompagnée de l'accordéoniste Frédéric Gâteau. C'est donc à la bibliothèque municipale de Migennes, ce samedi 17 mars, à partir de 17h. Toujours samedi 17 mars, cette fois-ci, c'est du côté de Sens, à l'espace culturel Leclerc-Saint-Clément, et bien à 17h30, le fameux présentateur du jeu télévisé Question pour un champion, Julien Lepers, dédicacera son livre Les fautes de français, plus jamais, un livre que l'animateur de France 3 a fait paraître aux éditions Michel Lafon. Le Printemps des Poètes jouera les prolongations à la bibliothèque Jacques Lacarrière d'Auxerre le samedi 24 mars prochain à 14h30 avec un spectacle pour les enfants à partir de 6 ans, spectacle de Guylaine Ferré en compagnie de Paola Basler-Ferré d'après un texte de Jacques Lacarrière. La durée de ce spectacle pour les enfants est de 45 minutes, l'entrée est libre et ce sera donc à la bibliothèque Jacques Lacarrière, à l'auditorium à 14h30, le samedi 24 mars prochain. Et puis, les 24 et 25 mars prochains, 25e édition du Salon des Dames, dans les salons du Palais Ducal de Nevers. Alors la marraine cette année, c'est la comédienne et écrivain Annie Dupéret, mais il y aura beaucoup d'autres auteurs féminins présents, parmi lesquels Régine Desforges, Tristan Bannon, Valentine Gobi, Anne Wasiemski, Pascal Rosé, mais aussi des hommes, Éric Nolot, Bernard Quirini et Denis Quilinac. C'est les 24 et 25 mars prochains au Palais Ducal de Nevers. Je voudrais mentionner le mercredi 28 mars 2012 à 20h, c'est au Conservatoire de Musique de Tonnerre, donc une conférence proposée par la Bibliothèque de Tonnerre et la librairie Plume et Images, une conférence sur le château de Mône proposée et animé par Jean-Luc Dauphin. C'est le 28 mars prochain à 20h au Conservatoire de Musique de Tonnerre. L'entrée est libre.